Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC. Très bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Johanna Rosenblum, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne à Paris. On va revenir sur ce qu'on a appelé tout le week-end la maison de l'horreur. Voilà comment certains surnomment ce lieu, donc à Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais, où vivait un couple et leurs 10 enfants dans une hygiène déplorable avec de grands retards cognitifs, des enfants attachés parfois à leur siège sans aucun traitement. C'est l'aîné de la famille, âgé de 24 ans, qui est allé lui-même finalement dénoncer ses parents, et c'est visiblement à la suite d'une altercation avec son père. La question que je voulais vous poser ce matin d'abord, Johanna Rosenblum, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer à côté de ça, c'est-à-dire que il a fallu que l'aîné dénonce finalement ses parents, mais personne, ni à l'école, ni dans le voisinage, n'avait jamais rien vu venir.
En ce qui concerne déjà les enfants de la famille, il arrive très fréquemment que les difficultés intrafamiliales soient difficiles à percevoir, pour la simple et bonne raison qu'un enfant, même maltraité, aime son parent plus que tout et veut se faire aimer de son parent. Donc il ne parlera pas, il ne témoignera pas. En général, il y a deux comportements qui peuvent alerter. C'est des enfants qui vont être un peu hyperactifs, agressifs dans la cour des corps, voire vulgaires. Ça leur permet de ne pas être à nouveau victimes en dehors de la maison. Et à l'inverse, il y a les enfants qui sont complètement atones, presque avec des symptômes dépressifs. Et ça, c'est des enfants qui se sont complètement éteints et qui essayent de se mouler au maximum à la violence de leurs parents pour ne pas en subir plus.
Parce qu'ils étaient scolarisés, hein, tous ces enfants. Ces signaux dont vous parlez, est-ce que l'équipe pédagogique, est-ce que l'équipe de l'éducation nationale sont suffisamment préparées? Si je vous pose la question, c'est aussi parce que la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel, elle-même, elle parle de défaillance.
Sincèrement, on se pose tous la question. 10 enfants, l'aîné à 24 ans, ça veut dire que la maman l'a eu quand elle avait 16 ans. Elle a bien accouché quelque part, il y a des suivis, la PMI, les sages-femmes, les enfants doivent se faire vacciner, ils doivent aller chez le pédiatre. Donc se pose vraiment la question de savoir comment on a pu passer à ce point-là au travers de la souffrance de 10 enfants étalés sur 24 années, quoi. C'est une question qui est troublante. Alors est-ce qu'on ne veut pas voir? Est-ce qu'on ne voit pas réellement? Est-ce que prendre la posture de la personne et du voisin qui alerte, c'est compliqué? J'aimerais rappeler aux professionnels de santé et à toutes les personnes qui travaillent auprès des enfants que depuis 2007, on peut échanger entre professionnels de santé en levant le secret médical. C'est-à-dire que vous ne serez pas en danger, vous ne serez pas accusé ou mis à mal si, entre professionnels de santé, vous demandez de l'aide d'un collègue, d'un confrère au sujet d'un enfant qui vous alerte. Car depuis 2007, le secret professionnel peut être levé entre professionnels de santé.
C'est très important ce que vous dites.
Tout à fait.
Quand vous dites entre professionnels de santé, ça veut dire quand même que si, par exemple, un pédiatre avait eu un doute, une inquiétude, il peut appeler un collègue, il peut dire, voilà, moi là-dessus j'ai un doute, aide-moi, dis-moi ce que t'en penses, essaye de le voir.
C'est exactement ça. J'ai un doute, qu'est-ce que t'en penses? Voilà l'anamnèse, voilà la situation de la famille, ou je n'ose pas passer le cap de faire un signalement, est-ce qu'on ferait pas un petit écrit ensemble? Tout ça, c'est possible depuis 2007.
Et du côté des professeurs, est-ce qu'il existe le même genre de système? Est-ce qu'une maîtresse d'école, est-ce qu'un maître peut dire attention sur cet enfant? Je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond.
Alors complètement. Pour tous les professionnels qui travaillent aux côtés des enfants, donc c'est les professionnels de santé, mais c'est aussi la directrice de l'école, la maîtresse, la prof de sport. Il y a la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y en a dans chaque département en France. Il faut juste aller sur le site et savoir un petit peu où s'adresser. Les numéros et les noms peuvent changer, mais il y a une CRIP par département. Là, vous pouvez appeler anonymement pour juste poser des questions, vous informer, s'informer sur les démarches à faire et éventuellement passer à l'étape d'après ou donner suffisamment d'éléments pour que la CRIP se saisisse de la situation et éventuellement alerte un procureur pour faire les démarches après vous.
Vous-même, Johanna Rosenblum, vous accueillez notamment ces enfants pour qu'ils s'expriment. On sait que là, les parents seront jugés en janvier et qu'en attendant, ils n'ont plus le droit de voir leurs enfants qui sont donc âgés de 4 mois à 24 ans. Cette période sans leurs parents, qui certes sont leurs bourreaux, mais sont aussi leurs parents, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment est-ce qu'on les accompagne, ces enfants?
c'est des enfants qu'il va falloir accompagner parce qu'on sait depuis les années 80, avec des études américaines sérieuses qui ont été faites sur des très grosses cohortes d'enfants maltraités, que si l'enfant n'est pas pris en charge, si le stress post-traumatique complexe, parce qu'on parle de trauma complexe quand c'est le traumatisme est sur une durée longue, c'est des adultes qui pourront eux-mêmes déjà être en souffrance et pourront répéter des maltraitances qu'ils ont connues dans l'enfance. Donc il faut absolument s'occuper de ces jeunes-là. Pour ceux qui sont adultes, la verbalisation sera plus simple. Pour les plus petits, la verbalisation sera compliquée. Donc à ce moment-là, on les prend. Bon, déjà, il y a beaucoup d'observations. Hein. Il suffit d'observer leur comportement, des manifestations de protection, de défense, les retards psychomoteurs, de verbalisation. Et ensuite, on les fait jouer. On fait ce qu'on appelle avec eux des jeux symboliques. C'est-à-dire, on leur donne des petites figurines, des petites voitures, des petits objets, des petites maisons. Et en fait, juste en les observant, on va les voir recréer ce qui est pour eux un quotidien qui est normal. Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas été exposés à leur environnement et qui trouvent certainement que ce qu'ils vivent à la maison, c'est un environnement normal et c'est ce que subissent tous les autres enfants. Donc, ils vont reproduire de façon tout à fait innocente leur quotidien.
Et ensuite, il faudra les aider justement à comprendre que ce n'est pas un quotidien normal. Merci Johanna Rosenblum d'être venue nous donner tous ces détails. Et c'est très important aussi, ces détails aussi de l'accompagnement possible, de la manière dont on peut aider. Et je rappelle le numéro à composer en cas de doute. Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation de maltraitance, c'est le numéro Enfance en danger, le 119.